France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
On s'intéresse aujourd'hui aux communautés Emmaüs et à l'effet produit sur elles par les révélations d'agressions sexuelles et de viols commis par leur fondateur, l'abbé Pierre. Pour rappel, les communautés Emmaüs, ce sont des lieux d'accueil, de vie et de travail pour des milliers de personnes en situation de précarité et d'exclusion, sans condition. Ceux qu'on appelait jadis les chiffonniers d'Emmaüs ont aussi été pionniers dans la vente d'objets et de vêtements de seconde main. Une forme d'économie solidaire unique depuis 70 ans, malgré des dérives qu'on a pu évoquer ici au pied sur terre. Un succès qui reposait jusque-là en grande partie sur une identification avec l'abbé Pierre, considéré comme un quasi-saint par ses quasi-disciples et classé pendant une dizaine d'années comme la personnalité préférée des Français. Or, depuis juillet 2024 que les révélations s'égrènent, 68 victimes ont été identifiées, dont 12 mineurs, d'agressions sexuelles ou de viols commis par l'abbé Pierre. Et les rapports en cours d'élaboration laissent supposer qu'il y en aura beaucoup d'autres. En interne, au plus près de la Fondation, on essaie donc aujourd'hui de comprendre comment ce choc a été vécu et on écoute Hélène et Chantal qui ont chacune intégré une communauté Emmaüs alors qu'elles étaient sans domicile. Deux récits recueillis par Inès Bouffartig-Sébastia qui contiennent, je le précise, des allusions et des mentions assez spécifiques à des violences sexuelles et sexistes.
Je suis Elena, j'ai 55 ans et je suis la responsable de la communauté Emmaüs à Longjumeau, dans le département de l'Essonne, 91, au sud de Paris. J'ai quitté l'Ukraine avec mon fils et je suis arrivée en France en 2000. C'était pas vraiment un choix, c'est le destin qui m'a amenée de train en train et je me suis retrouvée d'abord à Lyon et après à Saint-Étienne. J'ai passé 2 semaines dans la gare de Perrache à Lyon. C'est ma première maison en France. Je ne savais pas où il faut aller. Et après, j'ai connu ma première communauté Emmaüs à Firminy. J'étais placée dans le foyer de jeunes travailleurs. Une assistante sociale qui a travaillé là-bas, il a dit que nous ne pouvons pas rester plus qu'une semaine, mais il a déjà trouvé la solution et il va m'amener dans une communauté. Bon, déjà, le mot communauté, ça m'a interpellée un peu parce que tout de suite, je pensais communauté, une secte. Il m'a montré les photos de l'abbé Pierre habillé en soutane noire. J'ai dit, oulala, non, non, pas le truc religieux. Il a dit, non, je vais te montrer une autre photo. Une autre photo aussi qui est assez connue, avec son béret, avec ses yeux pleins d'empathie. Et voilà, rencontre avec Emmaüs. Je n'ai pas choisi Emmaüs, Abbé Pierre, le mouvement de solidarité. Non, j'ai choisi le train qui m'a amenée à la gare. Et finalement, j'ai été hébergée par la communauté Emmaüs. Donc moi, je considère que c'est mouvement Emmaüs, l'abbé Pierre, qui m'ont choisi. Emmaüs, c'est le mot que je ne connaissais pas du tout. Je ne suis peut-être pas une bonne chrétienne, parce que le village Emmaüs, il est dans la Bible, mais je n'ai jamais lu la Bible, non. C'était une découverte, mais moi, je dis toujours que c'est un destin qui m'a amenée à Longjumeau aujourd'hui. Dans la communauté, je découvre plein de portraits de l'abbé Pierre, sans soutane. Donc, on m'explique que l'abbé Pierre, c'est le fondateur de la communauté Emmaüs. Et il me dit que c'est grâce à cet homme qui a eu une idée géniale de s'approprier les biens immobiliers pour faire loger les gens qui sont dehors et gagner leur vie en ramassant des objets que les gens n'ont pas besoin. J'ai trouvé génial que grâce à ça, on peut faire vivre plein de gens qui étaient désœuvrés en dehors de la communauté. Il y avait encore à cette époque les compagnons qui ont côtoyé beaucoup l'abbé Pierre. Et ils racontaient les histoires. Ils sont partis en Argentine avec lui, ils sont partis en Brésil. Il les croisait en réunion, à Estéville, au salon à Porte de Versailles. C'était une icône, mais ce n'était pas une icône qui était accrochée au mur. C'était quelqu'un qui était proche, avec qui on pouvait partager les choses, discuter, manger. J'avais très envie de le voir, rencontrer. Non, c'était trop ambitieux pour moi. Mais j'avais envie de le voir, oui. Les seules fois quand j'ai vu l'abbé Pierre, c'était au port de Versailles. Salon international Emmaüs, il s'agit d'une très grande vente avec des plus beaux objets que toutes les communautés ramènent au salon de Versailles. L'abbé Pierre, il était dans un fauteuil roulant et il était poussé par un cadre d'Emmaüs. Il y avait beaucoup de monde et j'attendais l'abbé et tout le monde s'est rapproché vers lui. Et donc, je m'approche avec mon fils, bien sûr. Je m'approche et j'étais écartée. On me disait, pas les femmes. Mais les enfants, oui. Et donc, j'ai dit, OK, les enfants. Donc, j'ai mis mon fils à côté de l'abbé Pierre. Mais il était déjà pas en état de discuter. Il souriait. Il nous a regardés, mais je sentais qu'il n'était pas vraiment présent parce qu'il n'avait pas d'échange, il n'avait pas de paroles. C'était peut-être en 2004, 2005, donc je pense qu'il était déjà malade. Et donc voilà, je fais une photo avec mon fils et Abbé Pierre à côté. Et je ne me suis pas posé la question pourquoi j'étais écartée, parce que ce n'était pas important. J'ai vu l'abbé Pierre, j'ai vu l'icône, l'icône vivante devant moi, cette personne qui m'a donné le toit. Je suis arrivée à la communauté de Longjumeau en 2011. C'est ma deuxième communauté où je suis la responsable. Donc c'est une communauté... très belle communauté, que j'aime beaucoup. Une communauté qui accueille aujourd'hui 110 personnes, hommes, femmes, enfants. Quand je suis arrivée à la communauté, je voyais les photos, les dessins de l'abbé partout, des livres de l'abbé partout, des slogans de l'abbé partout. Bon, moi, ça ne me gênait pas parce que ce n'était pas invasif. Je l'aimais cette ambiance. Juillet 2024, je suis en vacances en Corse, au bord de la mer. C'était à la radio que j'ai attendu parce qu'on était dans la voiture. On est arrivé à la maison, on a allumé la télé. Waouh, on était scotchés. C'était un choc. Et pour moi, c'était encore plus difficile parce que j'étais loin et je ne pouvais pas mesurer la température. Moi, je disais, le pauvre homme, il est enterré, il est mort. Est-ce que c'est un peu humain de parler de lui comme un prédateur? Mais de l'autre côté, j'ai pensé aux femmes qui ont révélé tout ça. Sûrement, elles avaient besoin que ça soit dit. C'était un peu chamboulé parce que j'imagine que ça arrive quand on apprend que dans ta famille, quelqu'un qui est proche, qui est accusé des attouchements, tu dois te positionner. Tu ne peux pas ne pas te positionner. Je fais le choix en rentrant de vacances de réunir tous les acteurs de communauté, de faire une grande réunion, les compagnons, les bénévoles, les responsables, pour parler sans tabou à ce sujet-là et voir comment la communauté il continue à vivre. On prend l'info telle qu'elle et on ne fait rien parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas. On continue à faire le ramassage, on continue à faire la vente, on continue à accompagner les personnes qu'on héberge à la communauté. On entend la suite, mais ce qui revenait plutôt... on n'y croit pas. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il y avait pas mal de compagnons qui ont parlé dans cette réunion, qui ont pris les paroles pour dire « on s'en fiche de quoi l'abbé est accusé, ce qu'on sait qu'on est là aujourd'hui, parce que l'abbé Pierre elle a créé les communautés Emmaüs. On ne veut pas enlever les portraits de l'abbé Pierre, on veut les garder parce que cet homme-là nous permet de dormir, manger et surtout de s'occuper. » La décision, on a voté, hein, on a fait même pas le vote à la main levée pour ne pas mettre les personnes en difficulté qui votent. Il y a 98% qui ont voté pour garder les photos de l'abbé Pierre. Il n'y avait pas du tout ce discours que les personnes elles étaient vulnérables et que l'abbé Pierre elle a profité de leur faiblesse. Non, cette question-là, elle n'était pas du tout posée. C'était presque même les paroles agressives. Pourquoi on touche un homme qui est mort depuis très, très, très longtemps? Et on a touché notre abbé et ça nous fait beaucoup de mal et on doit faire tout pour le protéger, pour qu'il devienne comme il était. On ne voulait pas accepter, on ne voulait pas. Et pas beaucoup de personnes qui ont parlé des victimes, hein, pas beaucoup. En janvier 2025, on était plus ou moins préparés. Parce qu'il y a toujours des gens qui connaissent bien avant les médias, bien avant d'Emmaüs France et Emmaüs International, qui m'ont prévenu qu'il va y avoir une troisième révélation qui va concerner vraiment les enfants. Qu'il a eu des attouchements et les abus. Et là, je voyais nettement qu'il avait deux groupes. Un groupe qui niait complètement, c'était un déni. Et il y avait un autre groupe qui gardait le silence parce que c'était trop. C'était trop et je voyais qu'il s'est commencé à poser les questions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, c'était vraiment un choc. Donc, on s'est réunis avec le bureau. Et là, à l'unanimité, on a dit non, non, là, c'est bon, il faut qu'on arrête parce que... Ah, parce que là, j'avais envie de gifler l'abbé Pierre pour dire, mais qu'est-ce qui t'a foutu? Mais qu'est-ce qui t'a foutu? Et nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que avec ça, il a sali tout le monde. Et comment on fait pour redevenir propre, parce que cette révélation, il a mis la peinture noire sur tout le monde, sur les gens qui n'ont jamais vu l'abbé Pierre. Et là, c'était difficile, on n'y pouvait plus ignorer. Et on a dit que suite à ces révélations, on a pris la décision d'enlever les portraits de l'abbé Pierre et qu'on va faire une assemblée générale extraordinaire, où on va renommer l'association, donc le nom des fondateurs l'abbé Pierre, il n'y apparaîtra plus. On change le nom, pas le combat, c'était difficile pour moi. C'est difficile aimer quelqu'un qui a fait mal. C'est difficile à aimer, mais c'est aussi plus difficile de ne plus l'aimer. Chaque fois quand j'accueille un nouveau compagnon, je lui parle de la mission, assez rapidement, hein, de la mission de la communauté. Maintenant, je ne parle plus du tout de fondateur, de l'abbé Pierre, de première communauté. Donc j'essaie de retourner cette page d'histoire du mouvement Emmaüs parce que ça me perturbe, parce que je suis mal à l'aise. Parce que c'est pas réglé, parce que je sais que en France, je dois tout à l'abbé et à la création du mouvement Emmaüs. Mais je n'arrive pas à assumer et prononcer que cette phrase, c'est la phrase de l'abbé Pierre. Je ne prononce pas le mot, l'abbé Pierre. Parce que ça me fait mal à moi-même. Et donc, je me protège. Je me protège et après, la vie, elle continue.
France Culture. Les pieds sur terre.
Alors, je m'appelle Chantal. Je suis retraitée, évidemment. J'ai 79 ans. Et j'habite à Port-Jérôme-sur-Seine, pas loin du Havre, dans une famille d'accueil. J'ai découvert Emmaüs en me retrouvant sans domicile sur Paris, où je dormais le soir dans des foyers d'accueil, mais de nuit, et où on se retrouvait la journée dehors, quoi. J'étais dans un centre d'accueil qui se trouvait à l'époque à l'hôpital Sainte-Anne, un bâtiment à l'intérieur de l'hôpital Sainte-Anne, où il y avait un hébergement d'urgence géré par Emmaüs. Et c'est d'ailleurs là que j'ai connu Nicole, qui était à l'époque de nuit, qui était agent de nuit. Et donc, on avait bien sympathisé, quoi, parce qu'on avait le même gabarit déjà, on avait le même âge. Alors tout le monde me disait, mais t'es pas la sœur de Nicole? Enfin, les gars qui la connaissaient depuis longtemps croyaient que j'étais sa sœur, quoi. J'ai fait différents centres d'accueil envoyés par le SAMU. Et un jour, coup de téléphone de Nicole, qui était à Esteville. Esteville était, à l'époque, déjà devenu un centre d'accueil pour les jeunes en errance dans Paris. C'était l'abbé qui avait souhaité ça. Je lui ai dit, dis donc, tu ne chercherais pas une compagnonne, toi? Je me rappelle encore du mot que j'avais pris. Elle me dit, je ne sais pas, faut que je voie. Puis elle m'a rappelé le lendemain, en disant, t'as le permis, toi? J'ai dit, oui. Elle me dit, écoute, j'envoie des billets de train, si t'es d'accord, tu viens tout de suite. J'ai dit, ça serait pour quoi faire? Alors elle me dit, soit la lingerie, puis les transports des jeunes quand ils vont faire des démarches, tout ça. Voilà. Alors j'arrive à Esteville le 6 mai 2006. À l'époque, je crois qu'il y avait 420 habitants, qui étaient, moi ce que je dis, ravitaillés par les corbeaux, parce que, à part le centre d'accueil, il n'y avait que là qu'il y avait un peu de mouvement. Sinon, c'était mort, et c'est encore toujours mort. Il n'y a pas ni bistrot, ni boulanger, aucun commerce, rien. Il faut absolument une voiture pour aller dans les villages autour. Donc, je me suis retrouvée là, où j'étais compagne. Je m'occupais de la lingerie. Je faisais 25 machines à laver par semaine, pour les jeunes, et 2 par jour pour les torchons et tout ça. Mais bon, ça ne me dérangeait pas. Donc voilà, et entre-temps, les transports, alors à la gare de Claire, à la gare de Rouen pour aller récupérer les gens qui arrivaient, voilà. L'abbé Pierre, on en entendait beaucoup parler à l'époque. Hein. Moi, je suis arrivé en 2006, la dernière fois qu'il était venu, c'était en décembre 2005. Après, il était trop malade, il ne venait plus. Je n'ai pas connu, moi, hein. Que par oui dire. Il est venu régulièrement pour se reposer. Il avait carrément un petit appartement au premier étage. Il y avait sa chambre, il y avait une salle de réunion. Il y avait une cuisine dont il ne se servait pas, parce que c'était les gens qui faisaient la cuisine en bas qui lui montaient à manger. Il aimait bien l'Esteville, parce que la maison, quand elle lui a été donnée, c'est quand même lui qui a fait le nécessaire pour qu'elle soit retapée. Et puis quand même, il tenait à ses compagnons. Esteville, avant que ça se transforme vraiment en centre d'accueil pour jeunes, c'était une maison de retraite pour les anciens compagnons. Et puis tous les premiers compagnons qui sont décédés étaient enterrés à Esteville. Et c'est pour ça que l'abbé a voulu être enterré à Esteville. Alors, la mort de l'abbé Pierre, il était hospitalisé depuis plusieurs mois, au moins 3-4 mois. Et un matin, moi j'arrive un vendredi matin, oh purée, aussitôt le téléphone commence à sonner, 7h du matin, RTL. J'ai écouté, rappelé au siège, nous on n'avait rien à dire, puis entre-temps j'avais appelé Nicole, parce que bon, j'ai dit, ça y est, l'abbé est mort. Hein. Oh, elle m'a dit, ça va être le bazar. Ben oui, ça a été le bazar. Oh putain. De toute façon, on s'y attendait. De toute façon, il était très, 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 très malade. Il était liquide. Et après, il y a eu la cérémonie à Notre-Dame. Il y avait Sarko, il y avait tout ça. Voilà. Puis ils sont venus l'enterrer à Esteville. Où c'est moi, les collègues qui ont porté le cercueil. Et le soir, on avait 300 personnes à manger. On n'a même pas pu venir au cimetière. Nous, on n'a pas pu aller au cimetière. Hein. On a vu l'enterrement de l'abbé à la télé. On était à 1600 mètres.
Bon.
Et, chose bizarre, je me rappellerai toujours de ça, quand ils l'ont descendu dans la tombe, il s'est mis à neiger. Il y a quand même des coïncidences bizarres dans la vie. Hein. Lui qui avait quand même tant lutté pour que les gens ne meurent pas de froid dans la rue. Ben, nous, on n'était pas tristes, que je voulais, il avait 80, je ne sais plus combien, quel âge il avait. Puis il était malade depuis des années, quoi. Donc non, il n'y avait pas plus de tristesse que ça, mais bon, il y a eu la sidération un peu quand même. Puis, ben, puis pour tout le monde, c'était quand même un personnage qui s'en allait, hein. À l'intérieur d'Emmaüs, je vais vous dire au début, quand vous êtes uniquement hébergé, on vous parle de l'abbé Pierre comme si c'était le bon Dieu. Ben, c'était quand même lui qui avait créé Emmaüs, quoi. Et qui avait inventé ce système d'échange, hein, de récupération, de réparation et de revente pour se faire des sous. Nicole, elle était en adoration. Voilà, l'abbé Pierre. C'était Nicole, ça aussi. Quand elle aimait, quoi. Quand elle aimait pas, c'est pareil, hein. Nicole, c'était l'exagération même. Elle le soignait aux petits oignons. C'est-à-dire, l'abbé Pierre n'était pas un gros mangeur. Alors, elle lui faisait des bonnes choses. Tous les midis, tous les soirs, elle lui montait à manger. Alors, je ne sais pas quel jour c'était. Quand elle me racontait que les autres, ils lui donnaient à bouffer pas correctement et qu'elle, elle lui donnait à manger plus correctement, quoi, qu'elle le soignait au niveau de l'alimentation. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais tu sais, c'était un coquin. Ça, je me rappellerai tout le temps. Et elle m'a dit ça en rigolant, quoi. Mais tu sais, c'était un coquin, l'abbé Pierre. Hein. Elle dit, tu sais, quand je lui montais à manger, hein, il aimait bien... Il me rappelle encore du geste qu'elle a fait. Ah, elle m'a dit, il aimait bien. Il aimait bien toucher les seins, elle m'a dit. Alors ça, j'ai encore sa phrase dans la tête. C'était un coquin. Oh ben, je lui dis, ah bon? Mais c'est tout, moi j'ai pas rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez que je réagisse à ça, moi? Puis après, elle est passée sur autre chose. Hein. Mais enfin, moi, elle m'a sorti ça comme elle aurait dit, tiens, il pleut. Elle me disait ça sur un ton très léger. On peut pas dire que c'est méchant. On peut pas dire que ça synonyme d'agression. Coquin. Coquin, c'est gentil. Enfin, pour moi, quand on dit un gamin, il est coquin. Oh, t'es coquin, toi. Voilà. Moi, j'ai pris ça vraiment dans le sens du terme, quoi. Coquin et coquin. Alors, Nicole est décédée en 2021. Elle a vraiment jamais reparlé de l'abbé Pierre. Et ça m'avait quand même frappé. Ça m'avait frappé. En juillet 2024, oh, c'est là qu'on a appris qu'il y a eu un scandale avec l'abbé Pierre, qu'il y avait des histoires de viol et tout. Oh, j'avais entendu parler qu'il y avait 17 plaintes. Moi, j'étais tellement restée sur l'histoire de Nicole que c'était parce qu'elle avait exagéré, qu'au fur et à mesure, alors surtout quand il y a eu le reportage, c'est là qu'on a appris qu'il avait été expulsé manu militari des États-Unis parce qu'il avait déconné là-bas aussi, c'est tout juste qu'ils n'ont pas envoyé le GIGN. Il y avait son histoire d'être hospitalisé en psychiatrie en Suisse, enfin. Les gens qui venaient taper à la porte, ils cherchaient la tombe de l'abbé Pierre au cimetière en face, ça n'y a plus hein, du tout, du jour au lendemain, ça. Des cars entiers, qui venaient, qui se garaient sur le parking et qui venaient au cimetière, on n'a plus vu ça non plus, ça c'est sûr. Et j'ai entendu à la télé qu'Emmaüs, que le lieu mémoire fermait, et qu'on ne savait pas pour combien de temps. Sur Resteville, il y avait un peu des journalistes qui venaient fouiner au cimetière, une association qui était venue manifester, qui avait foutu des affiches sur le mur et tout ci, tout ça. Mais entre-temps, moi, les copains, ils étaient au chômage, hein, tous ceux qui travaillaient au lieu mémoire. Enfin, ça n'a jamais rouvert. Ils sont tous retrouvés officiellement au chômage au mois de décembre. C'est trop scandaleux, cette histoire. Puis alors, on en rajoute à chaque fois, hein, toutes les semaines, si on regarde bien, il y en a des nouvelles. Hein. Je sais pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait par rapport aux femmes, parce que il s'estimait pas plus que ça. Moi, pour moi, c'est les mecs qui draguent les femmes, c'est des mecs qui sont quand même, en général, un peu imbus de leur personne, qui se prennent un peu pour eux. Mais moi, j'avais pas du tout l'impression que l'abbé pouvait être comme ça. C'est déjà physiquement, attends quand même. Il y a quand même dans l'entourage des gens pour qui... C'était de la vénération, quand je reviens à mon histoire de vénération. Non mais attends. Moi, lui ou pas lui, président de la République, ou mes genoux, moi je rentre dedans, moi. Entre Bétaram, les histoires avec les prêtres et tout ça, alors quand même le monde est bien pourri, hein, moralité, de tous les côtés. Mon abbé, il a fait ce qu'il a fait, c'est même pas par... Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? On va pas le punir, on peut pas. Entacher sa réputation, c'est fait. Il faudrait que la justice suive son cours, mais comment? Comment, s'il n'est plus là? Ou alors contre les gens qui étaient au courant. Avant, on était fiers de dire qu'on travaillait pour l'abbé, pour Emmaüs, puis après, on le disait plus. Mais je trouve que la violence, elle a toujours existé. On n'a qu'à regarder les reportages sur les trucs avant et tout. Personne n'a inventé la violence, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça remonte à la nuit des temps. C'est l'homme. Moi, je disais toujours, l'égalité homme-femme, moi, j'ai jamais vu ce qu'il y avait à égaler chez les mecs. Je demande pas à être l'égal d'un homme, moi. Qu'est-ce qu'il y a à égaler chez un homme ?
C'était l'abbé Pierre, la chute de leur idole, un reportage d'Inès Bouffartig-Sébastien, réalisé par Louise André. Merci à Chantal et à Elena. Merci également à Philippe Dupont. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Mina Morel.